Conan Doyle, une visite nocturne. Je racontais mon histoire quand on m'arrêta, mais personne ne voulut me croire. Je la racontais de nouveau lors du procès, et je dis la chose dans son entier, comme elle était arrivée, pas davantage. Dieu m'assiste. Je me mis tout au plus juste, et les paroles et les gestes de Lady Mannering, et ses paroles et mes gestes. Et j'y gagnais quoi? L'accusé a fait une déclaration incohérente, inadmissible dans les détails et reposant sur aucun semblant de preuve. Ainsi s'exprima l'un des journaux de Londres. Pour les autres, ce fut comme je l'avais présenté, aucune défense. Et pourtant, j'ai vu de mes yeux vu le meurtre de Lord Mannering, et j'en suis aussi innocent que n'importe lequel des jurés qui me jugèrent. Puisqu'aujourd'hui vous êtes là, monsieur, pour recevoir les pétitions des prisonniers, voici la mienne. Je vous demande de la lire, seulement de la lire. Puis renseignez-vous sur le caractère de cette Lady Mannering, si du moins elle garde toujours le nom qu'elle portait il y a 3 ans, quand, pour mon malheur, je fis sa rencontre. Chargé de cette enquête, un agent privé ou un homme de loi, vous en saurez vite assez pour vous convaincre mon récit et la vérité pure. La moindre recherche vous mettra sur la voie. Rappelez-vous que le crime ne profite qu'à cette personne, puisque, d'une femme malheureuse qu'elle était, la voilà devenue maintenant une riche veuve. Vous tenez le fil conducteur. Vous n'avez qu'à le suivre et voir où il vous mène. Remarquez bien, monsieur, je ne parle pas de cambriolage. Je ne réclame pas contre tout ce que j'ai mérité, n'ayant pas en plus que je méritais. Ce fut bel et bien au cambriolage, du cambriolage, et je l'ai payé de mes 3 ans. Je reconnais le cambriolage. Mais quant au meurtre qui fait aujourd'hui de moi un condamné à vie, et avec un autre juge que Sir James, j'y allais peut-être à la corde. J'affirme n'être pour rien là-dedans, et je proteste de mon innocence. J'en viens à la nuit du 14 septembre. Je vous dirai très exactement ce qui arriva. J'avais passé l'été à Bristol en quête de travail. Je crus savoir que j'en trouvais à Portsmouth, car je suis bon mécanicien. Et je me mis en route à travers le sud de l'Angleterre, m'occupant sur mon chemin à 1000 bricoles. J'essayais de tout pour m'en tirer honnêtement d'affaires, car je venais de passer 1 an dans la prison d'Exeter, et je ne me souciais plus de loger chez la reine. Mais on a du mal à s'employer quand le nom qu'on porte n'est pas sans tâche. Et tout ce que je pus faire, ce fut de vivre. Enfin, après avoir pendant 10 jours coupé du bois et cassé des cailloux pour un salaire de misère, j'arrivais près de Salisbury avec une couple de shillings dans la poche et n'ayant plus ni soulier ni patience. Il y a sur la route entre Blandford et Salisbury un cabaret qu'on appelle le Bon Vouloir. J'y louais un lit pour la nuit et j'étais assis dans la salle tout seul à l'heure de fermeture quand le cabaretier, un nommé Allen, s'approcha de moi et se mit à dévider son écheveau sur des gens du voisinage. Et c'était un homme qui aimait bavarder, si bien que, sur son invitation, je restais avec lui à fumer en buvant un brodel. Je ne pris pas grand intérêt à ce qu'il disait, jusqu'au moment où, le diable s'en mêlant, il vint à parler des trésors de Mannering Hall. Ah, vous voulez dire la grande maison sur la droite avant d'entrer au village? Demandai-je. Celle avec un parc? Oui, précisément. La maison blanche avec des piliers sur la route de Branford. J'avais remarqué en passant, il m'était venu à l'esprit comme ça, qu'on pouvait facilement s'y introduire. J'avais écarté cette idée, mais voilà qu'à présent, l'aubergiste m'y ramenait avec son énumération des richesses. Le maître du lieu, dit-il, était déjà un grigou en son jeune temps. Vous pensez s'il était devenu à son âge? N'empêche qu'il a eu quelques agréments avec sa fortune. Mais quel agrément s'il ne la dépense pas? Demandai-je. Eh bien, mais il s'est payé la plus jolie femme d'Angleterre. C'est du moins cela comme agrément. Elle pensait avoir la disposition de l'argent. Elle fait aujourd'hui la différence. Et qu'est-ce qu'elle était? Dis-je de manière de dire quelque chose. Rien du tout. Quand ce vieux lord en a fait sa lady. Elle arrivait de Londres. Des gens prétendaient qu'il l'avait prise au théâtre. Personne ne savait. Le vieux était resté dehors tout un an. Et à son retour, il amenait une jeune femme. Elle est toujours là. Stephens, le maître d'hôtel, me raconta une fois qu'elle égayait toute la maison dans les premiers temps de son arrivée. Mais les façons mesquines et blessantes de son mari, la solitude où il la confine, car il déteste voir un visiteur, l'amertume de ses paroles, car sa langue est l'aiguillon de guêpe, on fait que sa vie s'est retirée d'elle et qu'elle est devenue une pâle et silencieuse créature qu'on voit errer lent tristement dans les sentiers de la campagne. Certains prétendent qu'elle avait un autre homme, mais que les trésors du vieux lord la rendaient infidèle et qu'à présent elle se dévore le cœur pour avoir perdu l'un sans bénéfice auprès des autres. Car avec toute la fortune de son mari, elle pourrait bien passer pour la personne la plus pauvre de la paroisse. L'aubergiste me disait ces choses et beaucoup de pareilles. Mais je les oubliais aussitôt dites, car elles ne me touchaient pas. La seule chose qui m'occupa, c'était de savoir sous quelle forme Lord Mannering gardait ses richesses. Les titres de propriété ou rente ne sont que des papiers. Il n'y a plus de danger que de profit à les prendre. Mais le métal et les bijoux valaient le risque. Et alors, comme s'il répondait à mes pensées, l'aubergiste se mit à m'entretenir de la grande collection de médailles d'or réunies par Lord Mannering. Elle était la plus précieuse du monde, à telles enseignes que si l'on mettait dans un sac toutes les médailles, l'homme le plus fort de la paroisse n'arriverait pas, dit-on, à soulever le sac. Là-dessus, l'aubergiste ayant été appelé par sa femme, nous allâmes nous coucher. Ceci n'est pas une histoire forgée à plaisir pour les besoins de ma cause. Mais je vous en prie, monsieur, songez-y. Demandez-vous s'il pouvait y avoir une tentation plus cruelle. J'étais là, cette nuit, dans ce lit, sans ressources, sans espoir, sans travail, avec mon dernier shilling en poche. J'avais essayé d'être honnête, et les honnêtes gens m'avaient tourné le dos. Ils me reprochaient d'être un voleur et me rejetaient vers le vol. Pris dans le courant, je n'avais plus aucun moyen de le remonter. Et voilà qu'il se présentait cette aubaine. La grande maison toute bordée de fenêtres et des médailles d'or si faciles à foirer. Alors, c'était comme si on avait tendu un crouton à un affamé. Et j'ai pu croire qu'il ne mangerait pas. Je luttais un moment, mais basta. Je finis par m'asseoir sur mon lit et par me jurer que je deviendrai riche cette nuit-là et renoncerai désormais au crime, ou que je connaîtrai encore le poids des menottes. Je me glissais dans mes vêtements, déposais un shilling sur la table pour l'aubergiste, et par la fenêtre, je sautais dans le jardin. Un mur élevé servait de clôture. Je franchis sans la moindre peine. De l'autre côté, c'était l'espace libre. Je ne rencontrais pas une âme sur ma route. La porte de l'avenue était ouverte. Dans le pavillon de garde, personne ne bougeait. Il faisait clair de lune et j'apercevais la grande maison éclatante de blancheur par-dessous la vue des arbres. Je fis environ un quart de mille et parvins à un vaste terrain sablé devant la porte principale. Je demeurai là un instant, accroupi, me demandant où je trouverais l'accès le plus facile. La fenêtre d'angle à l'une des ailes semblait la moins visible des étages. Un épais rideau de tailière la masquait. Oh, j'avais donc là ma meilleure chance. Et à la faveur des arbres, je passai derrière la maison. Un chien aboya et fit sonner sa chaîne. J'attendis qu'il se calmât, puis je repris ma marche furtive jusqu'à la fenêtre que j'avais choisie. C'est une chose extraordinaire que les gens de la campagne se gardent si mal et que, loin des grandes villes, l'idée du voleur n'est pas dans les têtes. L'occasion vient, pour ainsi dire, au devant du pauvre diable, quand, allant une porte sans songer au mal, il la voit s'ouvrir toute seule. Mais ce ne fut pas tout à fait mon cas. Mais un simple crochet fermait la fenêtre. Je le fis jouer au bout de mon couteau, soulevai la fenêtre, introduisis la lame dans l'intervalle des persiennes et ouvris. C'étaient des persiennes pliantes que je lui ai poussées devant moi pour pénétrer dans la chambre. « Bonsoir, monsieur, soyez le bienvenu, » dit une voix. J'ai eu quelques émotions dans ma vie, mais pas une aussi violente. Dans le champ même de la fenêtre, à portée de mon bras, se dressait une femme qui tenait à la main un rat de cave. Grande, mince, droite, elle avait un beau visage, pâle, qui aurait pu être taillé dans le marbre, et ses yeux et ses cheveux étaient aussi noirs que la nuit. Une sorte de peignoir lui descendait jusqu'aux pieds. Et dans cette robe et avec ce visage, elle semblait un immobile fantôme. Mes genoux s'entrechoquaient et je dus m'appuyer à une persienne. J'avais tourné les talons et pris la fuite. Je l'aurais fait si j'en avais eu la force. Mais je ne pouvais que rester en place et la contempler. Oh, elle me rappela vite à moi. « N'ayez pas peur, » dit-elle. Et d'une maîtresse de maison, un voleur, c'était là d'étranges paroles. « Je vous ai vu de la fenêtre de sa chambre quand vous vous cachiez sous les arbres. Alors je suis descendu à pas de loup. Je vous ai entendu à la fenêtre. Je vous aurais ouvert si vous n'aviez laissé le temps, mais vous m'avez devancé. » Elle me prit par la manche et me tira dans la chambre. Mais que signifie ceci, madame? Pas de plaisanterie, dis-je avec ma voix la plus rude. Et je sais la faire rude quand je veux. Vous auriez tort de vous moquer de moi, ajoutai-je, en montrant le couteau qui m'avait servi à ouvrir la persienne. Mais je ne songe pas à me moquer de vous, répondit-elle. Au contraire, je suis votre ami et désire vous venir en aide. Oh, faites excuse, madame, mais voilà qui me paraît dur à avaler. Vous désirez me venir en aide, vous? Mais pourquoi? J'ai mes raisons. Et tout d'un coup, ses yeux noirs flambèrent dans sa figure blanche. Parce que je le hais, je le hais, je le hais, comprenez-vous? Je me rappelais ce que m'avait dit l'aubergiste, et je compris. Je la regardais en face et connus que je pouvais m'en remettre à elle. Elle voulait se venger de son mari. Elle voulait le frapper à l'endroit sensible, à la bourse. Elle le haïssait au point de perdre tout orgueil et de se confier à un individu comme moi, pourvu qu'il servît à ses fins. J'ai détesté quelques personnes dans ma vie, mais je crois n'avoir jamais compris là une haine jusqu'à l'instant où je vis ce visage de femme à la lueur de ce rat de cave. « Vous fiez-vous à moi maintenant ?» me demanda-t-elle. Et de nouveau elle me tira doucement par la manche. « Oui, votre seigneurie. » Ah, vous me connaissez alors? Je suppose que vous êtes. Oui, mes griefs sont la fable du pays. Mais qu'est-ce que cela fait, cet homme? Il n'aime sur la terre qu'une chose. Et cette chose est à votre disposition. Avez-vous un sac? Oh non, votre seigneurie. Fermez les persiennes. Comme cela, personne ne verra la lumière. Vous n'avez rien à craindre. Les domestiques dorment dans l'autre aile. Je vais vous montrer les objets précieux. Vous ne pouvez pas tout prendre. Vous choisirez le meilleur. Je me trouvais dans une salle longue et basse. Des tapis et des pots jonchaient le parquet poli. Des petites vitrines se dressaient par endroits. Les murs étaient décorés de lances, d'épées, de pagayes et d'autres objets semblables qu'on voit dans les musées. Il y avait aussi des étoffes bizarres rapportées des pays sauvages, et la dame prit au milieu de tout cela un grand sac de cuir. « Cet oreiller fera l'affaire. Venez, je vais vous indiquer où sont les médailles. » Je croyais rêver à l'idée que cette grande femme blanche était la dame de la maison et qu'elle me prêtait la main pour voler chez elle. J'en aurais ri peut-être s'il y avait eu dans la pâleur de son visage quelque chose qui m'impressionnait et me glaçait. Elle glissait devant moi comme un fantôme, tenant le rouleau vert dans son rat de cave. Je la suivis, avec mon sac, jusqu'à une porte au bout de laquelle était la serrure, et je n'eus qu'à passer derrière mon guide dans la chambre à côté. C'était une vaste salle, avec des tapisseries pendantes qui, je me le rappelle, représentaient une chasse aux cerfs. Et à la lueur clignotante de la bougie, on aurait juré voir les chiens de chasse et les chevaux bondir sur les murailles. Il n'y avait pas d'autres meubles que de grands casiers en noyer, ornés de cuivre et munis dans le haut de vitrages sous lesquels s'alignaient les médailles d'or, quelques-unes larges comme des assiettes, épaisse d'un demi-pouce, et toute reposant sur du velours rose, et brillant dans l'obscurité. Les doigts me démangeaient de les atteindre, et déjà je m'apprêtais avec mon couteau à faire sauter l'une des serrures. Mais la dame étendit sa main sur mon bras. « Un moment, dit-elle, vous avez mieux à faire. Des souverains d'or ne valent-ils pas mieux que ces médailles ?»« Évidemment, dis-je, c'est ce qu'il y a de mieux. » « Bien, reprit-elle, mon mari dort là-haut, juste au-dessus de notre tête. Un simple petit escalier nous sépare de lui. Il y a sous son lit une boîte en fer blanc, et dans cette boîte, assez d'argent pour remplir un sac. Mais comment faire sans l'éveiller ? Mais quoi vous importe qu'il s'éveille ? Et me regardant d'un œil fixe, vous pouvez l'empêcher d'appeler. Ah non, madame, non, pas cela. Comme il vous plaira, conclut-elle. Je vous prenais à vous voir pour un homme de courage, je m'aperçois que je me trompais. Du moment qu'un veillard vous intimide, vous ne pouvez pas, bien entendu, lui prendre son argent sous son lit. Vous êtes seul juge de vos affaires, mais j'attendais mieux de vous. Vous devriez, je crois, choisir un autre métier. Mais je ne veux pas d'un meurtre sur ma conscience. Mais vous pouvez vous assurer de lui sans lui faire aucun mal. Qui vous parle de meurtre ? L'argent est sous le lit. Et qu'il y reste si le cœur vous manque ? Ainsi, elle m'excitait par du sarcasme et me tenait avec cet argent qu'elle faisait miroiter sous mes yeux. Et sans doute j'aurais fini par céder. Je serais monté à tout hasard si, voyant de quels yeux perfides et malicieux elle me regardait me débattre, je n'avais compris qu'elle voulait faire de moi un instrument de sa vengeance. Ne me laissait pas d'autre alternative que de violenter le vieillard ou de me laisser prendre. Elle sentit qu'elle allait trop loin, car elle se transfigura tout d'un coup et se mit à me sourire. Trop tard, je savais à quoi m'en tenir. Je n'irai pas là-haut, déclarai-je. J'ai ici tout ce que je désire. Elle me toisa, et plus haut qu'on n'eût jamais toisé un homme. Soit, enlevez ces médailles. Vous me ferez plaisir, commençant de ce côté. Je suppose qu'une fois fondues, elles auront toutes la même valeur. Mais celles que voici sont les plus rares, et par conséquent, ont pour lui plus de prix. Alors inutile de forcer les serrures. Vous n'avez qu'à presser ce bouton de cuivre. Il y a un ressort secret. Là, d'abord cette grande. Oh, il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Elle avait ouvert un de ses meubles, et toutes ces belles choses s'offraient à moi. J'allais faire main basse sur les médailles qu'elle me désignait. Quand je la vis changer de visage, et levait le doigt comme pour m'avertir. « Chut !» murmura-t-elle. « Qu'y a-t-il ? » Au loin, dans le silence de la maison, j'entendis un bruit sourd et traînant, un bruit de pas. Elle referma instantanément le meuble. « Ma Marie !» souffla-t-elle. « C'est bien, ne vous effrayez pas, j'arrangerai tout. » Elle me poussa, mon sac à la main, derrière la tapisserie, et, s'éclairant de son rat de cave, regagna vivement la chambre d'où nous sortions. Bien que caché, je continuais de l'apercevoir par la porte ouverte. « Est-ce vous, Robert ? » cria-t-elle. La flamme d'une bougie éclaira le seuil du musée. Les pas se rapprochèrent. Je vis apparaître un visage, un grand visage, sévère, tout en os et en plis, avec un énorme nez crochu et des lunettes d'or. La tête se rejetait en arrière à cause de ses lunettes, et le nez faisait saillie sur son visage comme un bec d'oiseau. L'homme était grand et gros, tellement que dans sa robe de chambre flottante, il semblait remplir tout le cadre de la porte. Ses cheveux bouclaient autour de sa tête. Il n'avait pas de barbe. Sa bouche mince, petite et pincée, se dissimulait profondément sous le nez impérieux. Il restait là, sa bougie en avant, et regardait sa femme d'un air étrangement hostile. Je devinais à voir qu'il avait pour elle-même la même affection qu'elle avait pour lui. « Eh bien, demanda-t-il, qu'est-ce donc, encore un accès d'humeur? Qu'avez-vous à rôder ainsi dans la maison? Pourquoi n'allez-vous pas vous coucher? Je n'ai pas sommeil, dit-elle. Elle traînait sur les mots avec lassitude. Si jamais cette femme avait été actrice, elle n'oubliait pas son métier. « Me permettez-vous de rire, de croire, fit-il une voix moqueuse, qu'une bonne conscience est un bon auxiliaire de sommeil ?»« Mensonge, répétit-elle, et vous dormez le mieux, car vous dormez le mieux du monde. » Il y a dans ma vie, gronda-t-il, et ses cheveux, dressés par colère, le faisaient ressembler à un vieux cacatoès. Il n'y a qu'une chose dont j'ai à rougir. Vous savez laquelle? Ce fut de ma part une erreur. Elle portait en elle sa punition. Pour moi comme pour vous, souvenez-vous-en. Vous n'avez pas à vous plaindre. Je suis descendu. Vous êtes monté. Monté. Oui, monté. Vous ne niez pas qu'on monte. Je suppose, quand on passe du Music Hall à Mannering Hall, imbécile que je fuis de vous arracher à votre milieu. Mais si vous le pensez, pourquoi me retenir? Parce qu'un tourment caché vaut mieux qu'une honte publique. Parce qu'il est plus facile de supporter les conséquences d'une folie que de la reconnaître. Et aussi parce que je tiens à vous garder sous mes yeux et savoir que vous ne pouvez revenir à l'autre. Misérable, misérable lâche. Oui, oui, madame. C'est votre ambition secrète. Mais vous ne la réaliserez pas, moi vivant. Et si vous revenez à cet homme après ma mort, j'aurai soin que vous lui reveniez à l'état de mendiante. Vous et votre cher Édouard n'aurez jamais la satisfaction de gaspiller mes économies. Prenez-en votre parti, madame. D'où vient que je trouve grandes ouvertes cette fenêtre et ces persiennes? La nuit était trop lourde. J'avais commis une imprudence. C'est vous qu'il peut y avoir dehors des vagabonds et que ma collection de médailles n'a pas sa pareille? Vous aviez également laissé la porte ouverte. Est-ce le moyen d'empêcher qu'on ne pille mes vitrines? J'étais là. Sans doute, je vous entendais bouger dans la chambre des médailles. C'est pourquoi je suis descendu. Que faisiez-vous? Mais que pouvais-je faire? Je regardais ces médailles. Oh, curieuse nouvelle de votre part. Il la regarda d'un air soupçonneux et s'avança vers la seconde salle. Elle le suivit. Et je constatai à ce moment une chose dont je frémis. J'avais laissé mon couteau ouvert sur l'une des vitrines. Il s'y étalait en pleine vue. Elle aperçut la première, et avec une astuce bien féminine, elle tenait son ras de cave de façon à interposer la lumière entre les yeux de Lord Manring et le couteau. Puis elle saisit le couteau dans sa main gauche et le dissimula contre sa robe. Le vieux, cependant, inspectait tour à tour chaque vitrine. À l'instant même, il s'approcha de moi jusqu'à portée de main. Rien n'indiquant qu'on eût touché aux médailles, il repassa, grondant et maugréant, dans la première pièce. Sitôt repassé dans la première pièce, il posa la bougie sur un coin d'une des tables et s'assit hors de ma vue. Mais elle allait et venait derrière lui, ainsi que je m'en rendais compte à l'ombre projetée sur le parquet par la lumière du rat de cave. Alors il se mit à parler de cet homme qu'il appelait Édouard, et chacun de ses mots tombait comme une goutte de vitriol. Il parlait bas, de sorte que je ne pouvais pas tout entendre, mais à ce que j'entendais, je devinais qu'il n'aurait pas mieux fait pis en la cinglant avec une cravache. D'abord, elle répliqua quelques mots, ensuite elle se tut, tandis que, de sa voix glaciale et ironique, il continuait, insultant, foyant, torturant, tellement que je m'étonnais qu'elle le suivît en silence. Et soudain, j'entendis le vieux crier « Sortez de derrière moi! Lâchez-moi! Quoi? Vous oseriez me frapper ?» Il y eut un bruit caractéristique, une espèce de choc mou. Le vieux cria « Mon Dieu, du sang !» et remua les pieds comme s'il se levait. J'entendis un second coup. Le vieux cria encore « Démon, que vous êtes !» Plus rien ne troubla plus le calme de la maison qu'un bruit d'éclaboussement sur le plancher. Alors je sortis de ma cachette et frissonnant d'horreur, je m'élançai vers la première salle. Le vieux avait glissé sur sa chaise et sa robe de chambre, toute ramassée, lui donnait l'air d'avoir une monstrueuse bosse sur le dos. Sa tête, avec ses lunettes restées à leur place, s'inclinait sur le côté, et sa bouche, mince, s'ouvrit comme une selle d'un poisson mort. Je ne voyais pas d'où venait le sang, mais j'en entendais le clapement sur le plancher. Quant à elle, debout derrière lui, elle avait la figure éclairée en plein par le rat de cave. Ses lèvres se serraient, ses yeux luisaient. Un peu de couleur lui était montée aux joues. Oh, je ne me rappelais pas avoir rencontré une femme plus belle. « Vous avez fait cela ? » m'écriai-je. « Oui, » répondit-elle avec un air tranquille. « J'ai fait cela. Et maintenant, qu'allez-vous faire ? On va vous arrêter pour meurtre. Ne vous inquiétez pas de moi. Je n'ai rien qui m'attache à la vie. Ça n'a donc pas d'importance. » Donnez-moi la main pour le remettre sur sa chaise. C'est horrible de le voir ainsi. J'obéis, bien que cela me glaçât de toucher le cadavre. Un peu de sang me tomba sur la main et j'en fus malade. À présent, dit-elle, vous pouvez prendre les médailles. Autant vous qu'un autre. Prenez et allez-vous-en. Je n'en ai plus envie. Je n'ai envie que de partir. me suis jamais trouvé dans pareille affaire. Folie, dit-elle. Vous êtes venu pour les médailles, elles sont à vous. Pourquoi, merci, pourquoi ne pas les rendriez-vous pas? Personne ne vous en empêche. Je tenais encore le sac. Elle ouvrit le meuble et dans ce sac, nous jetâmes à plus d'une centaine de médailles. Mais je n'eus pas la force de rester davantage. Je m'approchai de la fenêtre, car l'air de la maison me semblait empoisonné après ce que je venais d'être témoin. Et en me retournant, je vis encore debout, grave et gracieuse, sa lumière à la main, celle qui m'était d'abord apparue. Elle me fit un geste d'adieu, auquel je répondis, et je m'engageai vivement dans l'allée sablée. Dieu merci, j'ai le droit de jurer, la main sur le cœur, que je n'ai pas commis le meurtre. Peut-être en serait-il différemment si j'avais pu lire dans l'esprit de cette femme. Et sans doute il y aurait eu deux cadavres au lieu d'un dans cette chambre, si j'avais pu soupçonner ce que cachait son dernier sourire. Uniquement préoccupé de ma sécurité, je ne réfléchis pas une minute à sa façon dont elle m'avait noué la corde autour du cou. Mais j'avais à peine fait 5 pas hors de la fenêtre, en longeant la maison dans l'ombre, de la même façon qu'à mon arrivée, quand j'entendis un cri capable d'éveiller la paroisse, suivi d'un second, puis d'un troisième. À l'assassin! À l'assassin! À l'assassin! Au secours! Et ces cris de femmes dans la nuit retentissaient par-dessus la campagne. Ils me traversaient la tête, s'agitaient des fenêtres à ouvrir. Non, un instant, des lumières commencèrent lentement dans la maison derrière moi, mais au pavillon de garde et aux écuries en face. Comme un lièvre effaré, je pris ma course dans l'allée, mais j'entendis la grille se fermer avant que je ne l'eusse atteinte. Alors, je cachai mon sac sous un amas de bois mort et j'essayai de me sauver à travers le parc. Quelqu'un m'aperçut au clair de lune, et j'eus bientôt à mes trousses une douzaine de gens avec des chiens. Je me blottis parmi les ronces, mais les chiens étaient trop nombreux pour moi, et je respirais lorsqu'environ. Enfin, on arriva pour les empêcher de me mettre en pièces. On m'empoigna, on me traîna jusque dans la chambre d'où je sortais. Est-ce l'homme, votre seigneurie? Demanda le plus âgé de la bande, que j'appris plus tard être le maître d'hôtel. Penchée sur le corps, elle se cachait les yeux avec un mouchoir. Brusquement, elle tourna vers moi un visage de furie. Ah, quelle comédienne que cette femme! Oui, c'est bien l'homme, hurla-t-elle. Ah, canaille, canaille! Traiter ainsi un vieillard! Il y avait là un individu qui semblait un constable du village. Il mit sa main sur mon épaule. Qu'avez-vous à répondre? Interrogea-t-il. Mais que c'est elle qui a fait ça? M'écriai-je, en désignant la femme dont les yeux ne sourcillèrent pas une seule fois devant les miens. Allons, allons, dit-il, à d'autres. Et l'un des domestiques me frappa du poing. Mais je vous dis ce que j'ai vu, protestai-je. Je l'ai vu donner 2 coups de couteau à cet homme. Elle l'a tué après avoir décidé de le voir. De le voler. Le domestique fit encore mine de battre, mais elle tendit la main. Pas de violence, dit-elle. La justice fera son œuvre. Que votre seigneurie s'en rapporte à moi, dit le constable. Votre seigneurie, n'est-ce pas, a vu le crime. De mes propres yeux vus. C'est horrible. Nous entendîmes du bruit et nous descendîmes. Mon pauvre mari marchait devant moi. L'homme avait ouvert une des vitrines et remplissait le sac de cuir noir qu'il avait à la main. Il bondit devant nous pour fuir, et mon mari l'arrêta. Et dans la lutte, Lord Mannering reçut 2 coups de couteau. Oh, si je ne me trompe, l'arme est encore dans la blessure. Et voyez le sang sur les mains du meurtrier. Voyez sur ses mains à elle, ripostai-je. Elle a tenu tête de la tête de sa seigneurie, coquin effronté, dit le maître d'hôtel. À ce moment, un groom entrait, portant le sac que j'avais jeté dans la fuite. Voici, dit le constable, le sac même dont parlait votre seigneurie. Et voici, dedans, les médailles. Cela me suffit. Nous garderons l'homme ici cette nuit. Et demain, l'inspecteur et moi l'emmènerons à Salisbury. Pauvre diable, dit la femme. Pour ma part, je lui pardonne le mal qu'il m'a fait. Qui sait quelle tentation peut l'avoir poussé au crime? Sa conscience et la loi lui assurent un châtiment que je ne veux pas rendre plus cruel par mes reproches. Je ne trouvais rien à répondre. Non, monsieur, je ne trouvais rien, tellement cette femme me stupéfiait par son assurance et dans un silence qui semblait lui donner raison. Je laissai le maître d'hôtel et le constable me traîner jusqu'à la cellule au cellier où l'on m'enferma pour la nuit. Je vous ai dit, monsieur, toute la série d'événements qui aboutirent à l'assassinat de Lord Mannering par sa femme la nuit du 14 septembre de l'année 1894. Peut-être, comme le constable de Mannering Towers et le juge des assises, ne tiendrez-vous aucun compte de mes allégations? Ou peut-être y reconnaîtrez-vous l'accent de la vérité? Et vous m'écouterez? Et si vous ferez pour jamais le nom d'un homme qui ne s'embarrasse pas de considérations personnelles quand il s'agit de justice? Je l'espère qu'en vous, monsieur, si vous me lavez de cette accusation mensongère, je vous bénirai comme jamais un homme n'en bénit un autre. Et au contraire, si vous vous détournez de moi, je vous donne ma parole que d'ici à quelques semaines, je me serai pendu au barreau de ma cellule et que dorénavant, pour peu que cela jamais ait été permis à quelqu'un, je reviendrai dans tous vos rêves. Ce que je demande est très simple. Renseignez-vous sur cette femme, contrôlez l'emploi de l'argent dont elle est devenue maîtresse, vérifiez l'existence de cet Édouard que je prétends être mêlé à sa vie. Et si de la sorte, vous apprenez quelque chose qui vous montre la vraie nature de la personne, ou qui vous semble corroborer l'histoire que je vous ai dite, je sais pouvoir compter sur votre cœur pour prendre pitié d'un innocent.